RMC, double contact.
Alexandre Jacquin.
Salut à tous, bienvenue dans Double Contact, le nouveau podcast RMC. Tout au long de l'année, vous le savez, je vous emmène à la rencontre d'artistes et de personnalités pour parler de leur lien avec le sport. Dans ce cinquième épisode, j'ai rencontré le streamer Billy. Connu sous le pseudo Rebeu des Terres, il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Apprécié pour son naturel et son humour, il anime notamment des lives sur Twitch, souvent en compagnie de son acolyte Amine. Très discret dans les médias, Billy a accepté de se confier à notre micro. On a notamment parlé de son passé de boxeur, de ses combats avec le petit frère de Tony Yoka et de ses liens avec la famille d'N'Golo Kanté. Salut Billy, comment tu vas ?
Ça va et toi frérot ?
Écoute, ça va au top. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous pour l'interview, c'est cool.
Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément tous, t'es un streamer, c'est ça comme on dit ? Est-ce que c'est vrai déjà ? Est-ce que t'aimes bien qu'on dise que t'es un streamer ? C'est ça l'idée ?
Je suis tout. Okay. C'est-à-dire que si demain Twitch, ça me saoule, je peux me reconvertir dans autre chose.
D'accord.
Mais pour l'instant, ouais.
Tu es connu pour ça, en tout cas ?
Principalement, ouais. Et sur Twitter, de base.
Ok.
Je faisais juste des tweets à titre un peu humoristique pendant quelques temps. Et après, je me suis installé sur Twitch où je fais des streams avec un bon pote à moi, Amine. Et voilà.
Très bien. En plus, là, du coup, maintenant, pour ceux qui n'ont pas forcément encore connaissance, tu as une très grosse communauté qui te suit. Plus d'un million d'abonnés sur Twitch. Près d'un million d'abonnés aussi sur Insta, près de 500 000 sur YouTube, je crois.
Je me suis refait une chaîne.
Rapidement, comment t'en es arrivé à drainer une telle communauté, sans refaire vraiment tout le film de l'histoire, mais dans les grandes lignes un peu ?
J'ai toujours fait mon contenu de la même manière, mais il y a plutôt eu une explosion vers le confinement, un truc que je n'avais pas calculé, mais qui me semble très logique, vu que tous les jeunes, on était tous chez nous et que... On commençait à péter notre crâne dans nos apparts, on n'avait rien à faire, etc. Donc à ce moment-là, je pense que pas mal de jeunes se sont mis à regarder Twitch, même s'il y avait déjà énormément de monde sur la plateforme. Mm-hmm. Mais c'est là où j'ai pu passer de 10 000 viewers un peu constants sur mes lives à peut-être 40 000, 50 000.
Eh oui.
Et donc c'est la seule chose que j'explique un peu en termes de stats niveau explosion.
D'accord.
Mais sinon, j'ai toujours fait mon contenu de la même manière et on va voir où ça me mènera.
C'est beaucoup de contenu, effectivement, comme tu dis, en live. C'est aussi peut-être pour ça qu'on différencie, par exemple, les streamers des youtubeurs, c'est qu'il y a un côté en direct, quoi, sans filtre, en fait.
Ouais, c'est ça. Après, il y a pas mal de youtubeurs qui stream également, mais c'est vrai qu'on les catégorise toujours comme étant youtubeurs, donc je sais pas ce qui fait cette petite distinction.
Okay.
Mais c'est que du live, ouais. C'est que du live, et c'est un exercice différent que de tourner à froid une vidéo où il y a du montage. On peut faire un autre type d'humour, on peut rajouter toutes les vannes qu'on veut, etc. Là, c'est vraiment un autre type de talent, on va dire, de scotcher des gens pendant plusieurs heures tout en direct.
Bien sûr. Pour ceux qui veulent trouver, d'ailleurs, des fois, ton pseudo, c'est Rebeu des Terres.
Hein, c'est Rebeu des Terres, oui.
On est d'accord.
C'est ça. On me connaît sous le nom de Billy, mais c'est Rebeu des Terres.
Ouais. Billy, pourquoi d'ailleurs ? On peut dire pourquoi ce pseudo ?
Ouais, je m'appelle Bilal, mais dans ma cité, on m'appelait Billy depuis tout petit.
Okay.
Ça a commencé à la salle de boxe d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est là-bas, on m'appelait Billy, mes entraîneurs et mes potes, ils m'appellent comme ça depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. Donc j'ai gardé ça sur les réseaux.
C'est le surnom naturel pour toi, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça.
Si tu peux nous décrire un peu les contenus que tu fais, pour ceux qui, par exemple, t'auraient jamais vu, te découvriraient avec ce podcast, par exemple sur Twitch, sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit quand on se branche sur tes chaînes ?
Je suis très général. Enfin, ça, c'est un peu chelou à dire, mais je ne suis pas spécialisé dans un seul domaine, style le sport, l'high-tech. Ça veut dire que vraiment, c'est mon univers que je montre aux gens, ce que j'aime moi dans ma vie. J'ai parfois des goûts un peu chelous, mais que j'exprime à ceux qui me suivent.
Par exemple, on te voit, entre guillemets, pour bien visualiser, souvent avec Amine, donc le profil Amine m'a tué, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ton acolyte, et vous débriefez un peu des choses qui vous intéressent, en gros, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça.
Okay.
C'est comme un podcast finalement visuel de débrief, mais jamais axé sur un sujet en particulier. Dans un live qui dure 2 heures, 3 heures, on peut parler du match de foot du soir jusqu'au l'altitude des montagnes de l'Atlas, tu vois, ça n'a des choses qui n'ont rien à voir. Et le tout en proposant ce qu'on peut à domicile, c'est pas évident parce que tu sais, il faut un setup fixe, ça veut dire tu as ta caméra sur un trépied, les lights, etc. Tu ne peux pas trop te déplacer, donc on est contraint de faire des choses face caméra, assis sur une chaise.
Ouais.
Ça restreint un peu le champ des possibles. Du coup, on fait souvent du jeu vidéo, simplement. On joue à des jeux qui nous inspirent pour qu'il y ait une connexion à deux. En fait, on fait des jeux en coop, souvent en coopération. Sinon, on se mate des documentaires ensemble, on interagit là-dessus. C'est vraiment un moment à la maison, en fait. C'est vraiment fait maison, comme si on était entre potes.
Okay.
Et comme si on n'était pas en live, finalement.
Vous êtes chez vous, d'ailleurs, quand vous enregistrez ?
On est chez nous, ouais.
Ok, ouais, donc c'est vraiment authentique à 100%. Quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a un autre moyen de présenter du live, comme ce qu'on fait, c'est de faire des lives IRL, c'est-à-dire qu'on prend notre iPhone, et depuis peu, le logiciel permet de lancer avec la connexion 4G,
ouais,
bah, un live dehors, en fait. Et du coup, quand t'es dehors, il y a mille et une choses à faire.
Bien sûr, ouais.
Donc, souvent, on visite des lieux abandonnés. On essaie de voir ce qui va s'y passer en s'y rendant, parce que des fois, on fait des rencontres de fous. Des fois, on fait des découvertes, comme une fois, on a trouvé un cercueil dans une maison abandonnée.
D'accord, oui, exact.
Ouais.
Vous faites aussi des activités, parfois, un peu sportives. Vous êtes allé au ski ou vous faites des choses aussi,
oui,
comme
voilà,
ça.
Oui, voilà, exactement. C'est okay. Vrai qu'une fois, on avait fait un live au ski. On devait descendre la plus longue piste d'Europe en luge.
D'accord.
mais voilà, du coup, en IRL, enfin en extérieur, il y a beaucoup plus de choses possibles
okay.
que ce qu'on fait chez nous. Mais grosso modo, c'est ce qu'on fait, ouais.
Et donc, est-ce que tu fais un peu de sport dans la vie, par exemple, ces derniers temps ? T'es quelqu'un de sportif, un peu ?
De base, pas du tout. Jusqu'à mes 13 ans, mon daron, il en a eu marre. Il m'a redressé, m'a emmené à la salle de boxe. Et j'ai commencé à boxer vers 12-13 ans.
Okay.
J'en ai fait jusqu'à mes 20 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. Donc, j'ai dû en faire 5-6 ans avec parfois une pause d'un an vers la fin. Plus j'arrivais vers la fin, plus je commençais à craquer mentalement parce que la boxe, c'est un sport très dur.
Eh oui.
Donc, c'est la plus grosse activité sportive, enfin, période sportive que j'ai eue dans ma vie. Après, je suis tombé un peu dans tout ce qui est McDo, fast-food grec, confinement, Uber Eats.
D'accord.
Et j'ai commencé à prendre du poids, comme je pense pas mal de jeunes. Et je me reconnaissais plus. Et du coup, j'ai fait un camp d'entraînement dernièrement. C'était il y a peut-être un an et demi avec Manga Workouts.
Ouais.
Quelqu'un qui a coaché Noxtag aussi.
Les vidéos sont dispo d'ailleurs.
Voilà, sur sa chaîne YouTube. Et il nous a repris en main. Il nous a expliqué un peu comment ça se passait dans une salle, les différents types d'exo à faire, la diète, un truc que je faisais même pas quand je boxais. C'est-à-dire que j'allais à la salle 5 fois par semaine, salle de boxe. Et j'avais pas de diète. Enfin, je savais pas ce que c'était. Pour moi, tu mangeais des pâtes, un steak, c'était bon, tu vois. Et du coup, il m'a appris tout ça. Et beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Je me suis remis un peu au sport à ce moment-là. J'avais dû perdre 5-6 kilos. Et okay. Là, je me suis relaissé aller dernièrement, ces 2-3 derniers mois-là.
D'accord.
Et je compte reprendre. Je compte reprendre la boxe surtout.
Ok.
La salle, c'était sympa. Mais bon, peut-être qu'on en parlera après. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'objectifs que ça à soulever des poids sans aucun but. Bon, je ne critique pas, bien sûr, la musculation, tout ça qui reste un sport à part entière. Mais je préfère me servir de mon corps, d'avoir un truc plus fin, plus athlétique.
Il manque un petit côté ludique peut-être à la salle.
Ouais, c'est ça.
C'était un peu de la répétition.
Alors que la boxe, ou même si tu fais un five, tu fais du foot, tu vois pas le temps passer finalement. T'es là, tu peux faire une heure, tu cours après un ballon, tu t'oublies toi-même que tu cours, même si t'es KO. Et c'est ce truc-là qui manque, je pense, à la salle pour faire passer le temps.
Je vois. Et au niveau de ton parcours de boxeur, j'ai vu que t'avais aussi été jusqu'à faire des vrais combats en compétition.
Ouais, j'avais ma licence amateur.
Okay.
Du coup, j'étais en éducative au début quand tu fais de la boxe anglaise. Du coup, c'est que les points pour ceux qui savent pas. Au début, tu fais de l'éducatif, c'est que de la touche. Je perdais tous mes combats parce que je mettais toute ma gouache à chaque fois et ça, c'est des pénalités tout le temps.
D'accord.
Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe en amateur. Donc, je suis allé en amateur vers mes 15 ou 16 ans. Et là, c'est des combats, il n'y a pas de limite de force et tu envoies tout ce que tu as et il faut être technique aussi à la fois.
Okay.
J'ai fait une dizaine de combats en amateur avant d'arrêter. Et après, je faisais que de l'interclub. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui venaient dans le mien, moi j'allais dans d'autres. On mettait les gants avec des gars un peu de Chartres, de Danières, de Colombes. Donc voilà.
Parce que toi, c'est quoi ton secteur au départ quand tu as commencé par exemple la boxe ?
J'ai commencé la boxe à Rueil dans le 9-2.
Okay.
Rueil-Malmaison. J'en ai fait, c'est là-bas où j'ai appris. J'en ai fait 4 ans là-bas, 5 ans. Et après, je suis parti à Elancourt. Je suis parti à Elancourt dans une salle où je connaissais pas mal de gens avec qui j'avais déjà boxé, dans des championnats, on va dire.
Okay.
Et j'ai fait un an ou deux là-bas. Je me rappelle plus trop, un peu entre les deux.
D'accord.
Et voilà. Donc, c'est un peu ces eaux-là. Mais vu que les salles, on tente beaucoup entre nous, tu connais pas mal de salles. J'avais boxé aussi à Nanterre un peu. Et des fois, il t'arrive de faire une semaine dans une autre salle alors que tu n'es pas inscrit parce que ton coach connaît tel coach. Donc,
oui, d'accord. Ok, je vois. Il y a un petit réseau qui se crée entre les différentes
réseau,
salles.
Il y a un petit réseau, c'est ça, ouais. C'est
okay.
Ça.
Et toi, sur le ring, un peu, si tu peux te décrire, par exemple, si tu te donnes quelques qualités de boxeur, c'est quoi tes points forts ?
Je pense que techniquement, je suis pas mal. Techniquement, je suis pas mal. Je me rappelle le dernier, je me suis jamais pris de KO de ma vie.
Okay.
Mais il y a déjà eu un arrêt par combat de mon entraîneur, qui a lancé la serviette sur le ring pour en gros stopper le combat. C'est le dernier combat amateur que j'ai fait. Et en gros, j'étais en finale ou en demi-finale d'un championnat amateur cadet, quelque chose comme ça, à Poucher dans le 9-3. Et j'étais contre le mec le plus fort du tournoi. Un petit blond, un peu en mode russe, ukrainien, bizarre. Okay. Il était trop chaud. Mais techniquement, je le débordais, en fait. Ça veut dire que j'avais gagné mon premier round, le deuxième aussi. Mais j'étais cuit physiquement. Donc, je pense que mon gros point faible, c'était le physique. Pas assez de prépa physique. Là où il y a des mecs qui s'entraînent deux fois par jour, par exemple.
Et ouais, le cardio, vois, au bout d'un moment. Cardio, c'est vrai que la boxe, c'est très, très cardio.
Il y a beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de renforcement musculaire. Faut pas avoir des muscles inutilement sur le corps, tu vois. Si t'as trop de pec, trop de bras, ça te ralourdit, ça te...
Et ouais, bien sûr.
Donc physiquement, j'étais juste assez en place pour être là niveau cardio, mais c'est vrai que t'as les bras très lourds très vite et tu peux plus mettre ta garde. Et voilà, c'est ce qui me manquait, mais techniquement, j'étais là.
Ok. Et au niveau de ton petit bilan, par exemple sur les combats, sans être trop précis, mais disons, t'as plutôt gagné ou t'as eu des défaites un peu difficiles ?
J'ai tout perdu quasiment.
Ok.
J'ai tout perdu. Franchement, je vais pas faire le mytho.
Ok.
J'ai tout perdu, mais c'était jamais des défaites écrasantes. C'est ouais. Juste, tu sais, ça. Il y a genre trois juges qui notent ton round et ils te mettent souvent une note de 10, de 9 ou de 8.
C'est ça.
Et souvent, bah, l'adversaire, il a 10, toi, t'as 9.
Ah oui, c'était tout le temps serré un peu quand même.
Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais eu de grand écart.
À la décision, tu n'as jamais pris un KO, par exemple ?
Non, jamais. Okay. Je me suis déjà pris un KO, mais je ne l'ai pas montré, en fait. Genre, j'étais en finale. Bah, j'avais gagné ce combat, un des rares combats que j'ai gagné. J'étais en finale contre un mec, je sais pas, pour moi, il faisait pas son âge. Tu vois, on avait, en fait, dès que t'as 18 ans, tu peux boxer avec des gens de n'importe quel âge. Ça veut dire que tu as 18 ans, tu peux tomber contre un daron peut-être de 26 ans. Du moment que vous avez le même nombre de combats. Et c'était avant mes 18. Du coup, j'étais censé tomber contre un mec qui avait genre 17 ou 16 ans comme moi. Mais il en faisait genre 23, le poteau.
Il y avait suspicion.
Il y avait suspicion. Je ne sais pas ce qui se passe chez lui, ce qu'il prend. Mais le gars, il était terrorisant. Et j'ai gagné ce combat, mais il m'a mis un KO. Enfin, il m'a mis un moment une patate. Je me rappelle même que le public a crié genre en mode... il s'est pris une dinguerie. Et personne crie d'habitude, tu vois. Genre, c'est un public... c'est juste des clubs qui viennent, regardez, donc j'ai vraiment dû me prendre un truc de fou, il m'a éteint la lumière, genre je voyais plus rien devant moi,
okay.
Mais je restais debout et j'essayais de boxer un fantôme, en fait. Et après, la fin du round avait sonné, j'ai pu reprendre mes esprits, mais j'avais gagné ce combat et c'est le seul KO que je me suis pris où je suis pas tombé finalement.
Eh ouais, il n'y a même pas eu arrêt du combat.
Ah rien. Non, d'accord, en fait, il faut rien laisser transparaître parce que si l'arbitre, il capte que tu es sonné de ouf et qu'il te compte... L'autre, ça lui donne trop de force en fait mentalement. Et dès que c'est la reprise, il vient, il t'allume encore plus.
Je
voulais faire comme si de rien n'était, mais j'étais ailleurs. J'étais sur une autre planète.
J'ai vu aussi que tu avais combattu avec Victor Yoka. C'est le petit frère de Tony Yoka, du coup.
Ouais,
tu peux nous raconter dans quel cadre ça s'est fait, ce combat ?
Ouais, bah, totalement par hasard. Vu qu'il est du secteur, lui aussi, il boxe au Muro. Enfin, il boxait au Muro.
Ok.
Et,
donc 78, ça ?
Tous les clubs, ouais, c'est dans le 7-8. Et tous les clubs, en fait, un peu en Ile-de-France, on se rejoint tous à Poucher, l'endroit dont je te parlais, dans le 9-3.
Ok.
Et bah, c'est un gymnase qui a Saint-Ouen, juste à côté du marché de Clignancourt, là.
Ok,
Et tous les clubs, on vient là souvent le dimanche. Et il y a un championnat, mais pendant toute une journée, en fait, où tu affrontes quelqu'un et si tu gagnes, tu reviens le dimanche prochain.
Okay, et ainsi de suite.
Et c'est là où j'ai fait mon premier combat amateur contre lui. Et
C'était le premier, lui.
C'était mon tout premier. Okay. Et il est sur YouTube parce qu'il a été filmé par un de ces gars.
Oui, j'ai vu, tu le débriefes avec Amine d'ailleurs.
J'ai débriefé avec Amine. Ouais. Et j'ai reboxé avec lui une deuxième fois à domicile chez lui parce que le combat, finalement, je ne me suis pas tant fait éclater que ça. Alors qu'il était vraiment fort à ce moment-là parce qu'il a plus de salles que moi. Ça veut dire qu'un mec qui fait un an de salle et qui va en amateur. Il a zéro combat, il peut tomber contre un mec qui a fait 4 ans de salle et qui vient aussi de se mettre en amateur, qui a zéro combat. Okay. Ça veut dire, voilà, il y avait un écart entre nous et que j'ai essayé de rattraper. Du coup, on a fait un deuxième combat au Muro. Je ne sais pas s'il a été filmé ce jour-là, mais c'était lourd parce que j'ai été compté par l'arbitre un moment et je le fais compter lui derrière, juste derrière par l'arbitre aussi.
Ah, pas mal.
C'était comme dans un shonen. Franchement, c'est mon meilleur combat. Je me sentais trop bien, même physiquement, j'ai tout tenu. Et depuis ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu et je sais que lui a continué la boxe. Et je crois qu'il boxe beaucoup en Allemagne et même à l'INSEP, je crois, l'équipe de France. Et voilà, c'est un mec hyper talentueux. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais je lui souhaite que de la force pour la suite.
Et est-ce qu'il y a des boxeurs, toi, qui t'ont inspiré ? Par exemple, quand tu boxais à l'époque, quand tu étais jeune, est-ce qu'il y avait des exemples de boxeurs que tu aimais bien ?
Moi, je m'étais pas mal perdu sur YouTube à cette époque-là où, en gros, je me suis dit que j'avais le choix entre deux catégories. C'était soit l'art d'attaquer, soit l'art de défendre. Et l'art de défendre, je trouve ça trop beau. Ça veut dire que je commençais à regarder, tu sais, un peu des compiles best-of de boxeurs que je connaissais même pas.
Okay.
Je crois qu'il y avait Pernell Whitaker, un truc comme ça. C'était un mec archi défensif, mais il gagnait tous ses combats, même par KO des fois. Mais c'est un gars, en fait, on dirait qu'il joue aux échecs finalement. Il est sur le ring, il fait pas de mouvement inutile, il observe, il pousse à la faute de l'adversaire. Une petite esquive, un petit coup en léger, mais il pique tellement bien au menton que les mecs, des fois, ils tombent KO. Et du coup, j'ai un peu des références comme ça. Mais après, bien sûr, Tyson. Ouais.
Dans l'esquive, Mayweather, j'imagine.
Mayweather, très, très chaud. Il y a, en fait, je me suis dit que nos darons avaient peut-être vécu la meilleure génération de boxe, parce qu'il y avait beaucoup de légendes à ce moment-là. Mais nous, on a aussi la chance de grandir avec Mayweather, Canelo, Pacquiao. Et voilà, et même actuellement, je crois, il y a le petit de Mayweather, justement, Gervonta Davis. Ouais. Il y a aussi...
Et je suis un peu, il est assez agressif, il est tonique, lui, sur le, sur le ring.
C'est un alien, je te jure que c'est un alien. Même si on me met en sparring partner contre lui, alors qu'il a 10 rounds déjà, je ne veux pas monter. Je te jure que c'est... Et il y a aussi son adversaire prochainement, je crois, comment il s'appelle, Ryan Garcia.
Ryan Garcia, ouais.
Donc, je suis un peu tous ces gars-là. Okay. Et à chaque fois que je vois leurs vidéos sur Insta, je me dis, faut que je reprenne, c'est le meilleur sport du monde, en fait. C'est...
Et oui.
Je ressentais des choses que je n'ai jamais ressenties ailleurs que sur le ring, en fait. Donc, ça me rappelle plein de souvenirs.
Tyson Fury, tu regardes un peu quand il combat aussi, non? De temps en temps.
Moins, c'est le poids lourd.
Ouais, c'est les lourds.
Ouais, poids lourd comme ça, je suis un peu moins fan. C'est souvent beaucoup plus de puissance. Bon, après, il y a des poids lourds techniques aussi.
Ouais.
Mais pour moi, c'est plus du show aussi.
C'est pas vraiment la même boxe. Hein.
C'est pas la même boxe. Et je préfère plus peut-être poids moyen où les gars, c'est des fusées. En fait, pour moi, c'est le poids parfait parce que ça allie vraiment la puissance, la vitesse et la technicité en tout point, tu vois. Donc, je regarde plus ça. Et je suis pas mal de combats aussi de gens de l'équipe de France que je suivais à l'époque. Il y avait pas mal de galas de boxe en France à l'époque. Il y avait Paris United, du coup, c'était les gars de l'équipe de France qui boxaient. Il y avait Nordine Oubali.
Ah oui, d'accord.
Souleymane Sissoko.
Ouais.
Et c'est ce genre de gars avec qui j'ai grandi dans la boxe. Enfin, je ne les ai pas côtoyés, mais je regardais que ces gars-là en vrai. Du coup, quand je voyais ça, c'est encore plus fou qu'en vidéo parce que...
Ah bah oui.
Ils mettent des balles d'AK-47 en fait, en vrai, et ça, tu peux pas t'en rendre compte en vidéo. Faut vraiment être là pour le croire.
Ouais, c'est impressionnant quand tu assistes à ça aux premières loges, quoi.
Ah ouais, de ouf.
Tu me disais que ouais, c'est ton père qui t'a un petit peu initié à la boxe. Dans ton entourage, il y a des gens sportifs, dans ta famille par exemple.
Ouais, je crois qu'il y a un grand boxeur dans ma famille, mais c'est un oncle que j'ai jamais connu qui habite à Besançon.
Ok.
Un hackar.
Déjà dans la boxe aussi, du coup.
Dans la boxe. La boxe, c'est un truc familial chez moi. Mon père, il en a beaucoup fait en étant jeune, plus d'autres arts martiaux type karaté, des trucs comme ça. Mais la boxe, c'est l'amour de sa vie. Du coup, j'étais assez étonné qu'il me le retransmette comme ça. J'ai l'impression que ça s'est fait un peu au hasard. On devait peut-être passer devant la salle de boxe de Rueil, parce qu'il y a un Leclerc juste en face auquel on allait faire nos courses.
Et, ouais.
Et il m'a mis dans ça et c'est un truc que j'ai envie de transmettre à n'importe qui. Tu vois, même si j'ai une fille, j'aimerais le transmettre à ma fille. Ça apprend des valeurs de ouf, ça m'a canalisé pour tout le reste de ma vie.
Ça t'a apporté, la boxe, ça apporte beaucoup de choses au-delà du fait de se battre. C'est du self-control, de l'assurance.
Et dit comme ça, ça a l'air un peu bateau, mais ça apporte vraiment du self-control. Ça veut dire qu'avant, j'aurais peut-être pu être plus susceptible de me battre à l'école avec un pote, avec je sais pas. Et quand tu sais te battre, quand tu sais que tes poings, c'est des armes, en fait, finalement, parce que c'est interdiction de reproduire ça dans la rue, tu peux tuer quelqu'un. T'as tout sauf envie de te battre, même contre un mec que tu sais que tu peux éclater, t'as envie de le laisser brailler, t'as vraiment pas envie d'en venir là, quoi. Et ça, c'est un truc que la boxe m'a appris, en plus du respect de l'adversaire, de la sagesse. C'est quand même fou de se prendre des grosses pêches dans la tête et de pas avoir la haine contre le gars qui te fait ça, parce que c'est le jeu. C'est fou, en fait. T'apprends trop de choses indirectement.
Et tu disais aussi que t'as joué un petit peu au foot, j'imagine, dans ta jeunesse.
J'en ai fait en club, mais genre 2-3 ans. Tu sais, j'étais genre en poussin, en benjamin, je me suis arrêté en benjamin. Je sais plus si ça correspond à quel âge.
Mais ouais, 10-11 ans, un truc comme ça.
Ouais, par là. Mais c'était vraiment juste pour être avec mes potes de l'école.
Ok.
Et eux, par contre, certains avaient un vrai niveau, ils ont continué par la suite.
D'accord.
Mais moi, j'ai capté que j'étais une quiche. J'étais trop claqué. J'étais trop claqué, mais...
C'était dans quel club, ça? C'était quel coin?
C'était à Suresnes.
Suresnes. Ça, c'est la ville où tu as grandi, Suresnes.
C'est la ville où j'ai grandi.
Dans les Hauts-de-Seine, collé à Paris, quasi, pour ceux qui disent, à l'ouest de Paris, en fait.
Ouais, c'est ça. Dans la Cité Jardin, j'ai grandi là-bas.
Okay.
Et c'était à Suresnes, et c'était au club de Suresnes. Et franchement, par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu pas mal de passages dans ce club, parce qu'il y a eu N'Golo Kanté qui a commencé ses débuts dans le club.
Bien sûr.
Et du coup, j'ai grandi avec ses petits frères, on était en centre aéré ensemble et tout.
Okay.
Et ça, c'est un truc que je captais pas quand j'étais petit, parce qu'il fallait être un footeux pour vraiment savoir, tu vois. Et vu que je regarde pas le foot, enfin pas souvent, je regarde juste quand il y a l'Euro ou les Mondiaux, je suis choqué d'apprendre ça aujourd'hui, tu vois. Donc,
Ah oui, à l'époque, tu t'avais pas conscience que leur grand frère, c'était.
Je savais qu'il faisait du foot, mais j'étais loin de me douter que c'est un gars qui finirait en équipe de France ou un mec aussi talentueux, tu vois.
Mais on en parlait un petit peu dans le. Enfin, est-ce que dans les discussions, c'était évident que c'était quand même un mec à part, ou ça s'est pas remarqué tout de suite à l'époque
quand toi, je crois qu'à cette époque-là, il était encore à Caen, si je ne dis pas de conneries.
Ouais, il a commencé à Caen,
ouais. Ouais, je crois qu'il était encore là, donc il devait se faire remarquer déjà même à cette époque. Mais
c'était
moi,
pas encore le phénomène, peut-être, après qu'il est devenu...
Ouais, après moi, je jouais juste à la GameCube avec, avec ses petits frères, tu vois.
Et ça va au foot, ils sont bons, ces petits frères?
Je crois pas qu'ils aient fait de foot. Je crois pas qu'ils aient fait de foot.
Ah, tu les connaissais en dehors du foot?
Ah, totalement en
je
dehors du
que
foot.
Que c'était par rapport au foot.
En fait, j'étais dans un centre aéré à Rueil. Bah, justement, ils sont de Rueil de base.
D'accord, ok.
Ils étaient dans un centre aéré là-bas et j'y étais aussi. Okay. Et c'est là-bas où on s'est rencontrés, mais je savais pas qui était leur grand frère ou quoi.
D'accord.
Et on y a passé 3 ans quasiment dans ce centre aéré. On venait toutes les vacances à chaque fois.
Ok, excellent.
Et voilà.
D'accord, trop cool. On va parler un petit peu, oui, si on parlait boxe, mais est-ce que tu suis le MMA aussi un peu?
Je commence de plus en plus.
Ouais.
Je commence de plus en plus. Là, il y a une grosse hype qui se crée, j'ai l'impression, bon, depuis un moment déjà.
Ouais, mais oui, mais clairement, bah, depuis déjà qu'ils ont légalisé les combats en France,
ouais,
ça a démocratisé.
Je crois qu'ils viennent d'arriver à Paris, là.
Ouais. L'année dernière, ils ont fait l'UFC Paris.
Ouais. Ce qui me parle le plus, c'est des gens un peu de notre microcosme, un peu sur Twitter, ou des gens qui peuvent être plus proches de nous, qui se trash talk entre eux. Et ça me donne trop envie de m'y intéresser. Bah, je pense à Cédric Doumbé, à Baki.
Ouais, oui.
Même Saladin.
Saladin Parnasse.
Ouais. Saladin Parnasse. En fait, tout ce genre de combattants, ils sont plus proches de nous que je le pensais. Ils sont sur nos réseaux, on peut interagir avec eux. Et ça donne envie de s'y intéresser, parce que ce n'est pas un mec qui habite en Russie ou aux States où tu sais que tu n'auras jamais de réponse de sa part. Là, c'est vraiment du trash talk de chez nous, bien français.
Tu as pu échanger déjà avec certains combattants, même comme ça, sur les réseaux
ou... Ouais, bah, je les suis tous déjà. Mais avec Baki, j'aurais bien aimé faire un live avec lui. Ça devait se faire dernièrement, là, mais on a reporté.
Okay.
Et j'aurais kiffé faire un petit sparring avec lui, mais juste pour qu'il m'apprenne, lui, 2-3 trucs, parce que j'ai des notions en anglaise, mais le reste, je ne connais rien. Ni les clés de bras, tu vois, les positions au sol, la lutte, tout ça, ça m'est totalement étranger. Et du coup, je parle pas mal avec Baki. Et là, je suis en train de suivre ça à fond. Juste dommage que c'est assez tard. Tu vois, souvent, les heures, c'est 4 heures du mat et tout. C'est
ça. Quand c'est pas en Europe, rarement, c'est vrai qu'il faut se lever la nuit, quoi. Ou alors, petit matin.
Ouais.
Donc, sinon, il y a les highlights le lendemain, quoi.
Ouais, mais c'est pas la même ambiance. Ouais.
C'est vrai que c'est pas
la même ambiance. Il faut être un peu fatigué le soir.
C'est vrai. Il y a un petit truc quand t'es en direct. Au foot, tu supportes une équipe?
Foot, je suis à la ramasse, frérot. C'est carrément, je voulais m'y intéresser. En fait, à chaque fois qu'il y a des mondiaux ou l'euro, je me dis, c'est de la frappe, en fait, le foot, il faut qu'il m'intéresse plus. Le truc, dès qu'il va se finir, il faut que je me mette à peut-être enquêter sur une équipe, la supporter. Et j'avais fait une story, Insta, pour demander quelle équipe je devrais supporter selon les gens. Et que je cherche un type d'équipe, genre, qui n'a pas forcément tous les moyens de la terre pour acheter tous les meilleurs joueurs.
D'accord.
Qui, des fois, tente des comebacks avec des joueurs pas inconnus au bataillon, mais...
Je vois les outsiders, tu veux pas un favori,
une équipe d'outsiders de fou. On m'a conseillé, je crois, Arsenal et Liverpool.
Ouais, Liverpool, c'est quand même une belle équipe, mais
ouais.
Arsenal, sur ces dernières années, ouais, c'est un peu plus outsider.
Mais c'était surtout Arsenal, mais je m'y connais encore une fois pas du tout. Je me suis pas encore mis dessus sur leur match ou quoi. Mais en fait, je sais que c'est une aventure de ouf. Genre, dès que tu suis une équipe, je sais que...
Tu vibres différemment quand c'est ton équipe, plutôt que de regarder ça d'un œil neutre, quoi.
Ah, c'est sûr. Puis même, t'es à l'affût sur tout. Ça veut dire... tu veux être au courant de chaque match, tu veux être disponible pour regarder. Ça demande beaucoup plus de temps, d'énergie, de machin. Et
ah, c'est vrai.
Il faut que je me mette.
Il faut que tu trouves la bonne équipe avant.
Il faut que je trouve la bonne équipe,
déjà. Et même si tu m'as dit, même si tu ne suis pas le foot à l'année, quand il y a la Coupe du Monde, tu regardes un petit peu. La dernière, par exemple, tu l'as suivie, la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
J'ai suivi, je crois que c'était l'un des meilleurs mondiaux qui ait jamais existé, si je ne dis pas de conneries, même en termes d'ambiance. Je crois que tout s'est bien passé là-bas. Bon, vu que je crois qu'il n'y a pas d'alcool au Qatar, tout ça, les supporters c'était tous bonne ambiance. Je voyais des vidéos, ça donnait chaud au cœur. Et bon, sans parler des matchs où il y avait des rebondissements de malades.
Ouais, jusqu'au bout. Ouais.
Donc moi, je suis arrivé pas dès le début, mais peut-être vers les quarts, on va dire comme d'hab pour un footix de mon genre.
Et quand ça commence à compter vraiment.
Quand ça commence à compter, non, même un peu avant les quarts. Enfin, le truc avant les quarts, je sais pas, les huitièmes.
Ouais, bah dès les matchs à élimination directe, en fait.
Ouais, voilà. Okay. Et je me suis dit, je suis con, j'aurais dû tout regarder en fait, parce que je ressens tellement de trucs en voyant ça, et c'est de la frappe. Enfin, il y a trop de rebondissements, ça joue trop bien. C'est ce que je me suis dit. Du coup, j'ai suivi à partir peut-être des huitièmes.
Ok. Et alors, le souvenir le plus marquant que tu as gardé de toute cette...
Le Maroc. Pourtant, je suis algérien, mais j'étais à fond derrière les frérots marocains. Et
c'était la belle histoire, cette Coupe du Monde, le Maroc.
Trop belle histoire. Pour moi, c'est un manga, ce truc aussi. Je me suis dit, mais ils font un comeback des enfers, là. C'est comment ils sont chauds comme ça. Ils ont fait rayonner leur pays pour... En fait, je ne sais pas si à ce moment-là, ils se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train de faire, mais... ils sont pas en train de changer l'histoire du Maroc, mais ils sont en train de faire rayonner leur pays pour peut-être plusieurs années sur ces 3-4 matchs de dingue qu'ils ont fait. Oui. Parce que vu que c'est un mondial, il y a une telle visibilité là-dessus que les gens...
C'est la première fois qu'il y avait un pays africain qui atteignait les demi-finales.
Aussi, donc aussi, déjà, aussi. La dimension donc, historique. Ils ont réécrit l'histoire. Et ils étaient trop chauds quand tu voyais leur jeu. Bon, je suis pas un expert une fois de plus, mais c'était tellement fluide. Et tu te dis, il faut qu'on arrête de dormir sur ce genre d'équipe, tu vois.
Donc, il y avait moi, un état Maroc, d'esprit vraiment collectif, soudé. Tu sentais une équipe en mission, quoi.
Soudé, tu vois qu'il y a, je pense, il y a pas forcément de bif entre différents. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est une équipe de frères en fait qui vont à la guerre. Et même les après-matchs, qui fait beaucoup, tu vois, quand certains faisaient rentrer leur mère sur le terrain pour célébrer ça avec.
C'est vrai, c'était très familial, ouais, l'ambiance, exact.
C'est très familial et c'est une famille. Moi, j'étais à fond derrière eux. J'étais trop dégoûté sur leur défaite en demi.
En demi, ouais.
Ouais, mais fou.
Est-ce qu'il y a un joueur marocain qui t'a marqué parmi cette équipe dans toute cette épopée? T'as retenu quelqu'un?
Ouais, je me rappelle beaucoup de Ziyech.
Yes.
Je crois qu'il était archi chaud. Après, encore une fois, je suis pas un expert.
Non, mais c'est vrai. Mais... En plus, il n'avait pas joué beaucoup avec son club, donc il est arrivé un petit peu à court de forme, mais il a tout donné, quoi.
Bono, le
gardien.
Je suis un ouf, Bono, le goal.
Il est devenu le chouchou des Marocains, lui.
C'est trop. En plus, t'as l'impression que c'est un vrai leader, pour le coup, parce qu'il n'en fait pas des caisses, il a souvent le sourire, tout le monde l'écoute, t'as l'impression, et c'est vraiment un général de guerre. T'as l'impression que l'équipe, c'est le squelette du truc, en fait. Et bon, après, je suis pas un expert, mais c'est l'impression qu'il m'a donné.
Ouais, non, mais c'est
un mec grave extérieur au foot comme moi.
Clairement.
Et il m'a fait rêver, ce type. Il est trop chaud.
Un mot sur le parcours de l'équipe de France aussi, jusqu'à la finale. J'imagine, bon, après la déception de la demi-finale, j'imagine qu'à sur la finale, tu étais derrière l'équipe de France.
Ouais.
Tu l'as vécu comment, cette finale d'anthologie, finalement?
Bah, c'était, je sais pas, mon cœur, il s'est mis à battre à 1000 à l'heure, alors que de base. Je suis pas à fond dans le foot et je me suis laissé embarquer par le truc. Je me rappelle plus trop du déroulé du match, mais je sais qu'il y a eu un rebondissement de fou à la fin où ils sont partis chercher les prolongations, je crois.
Ouais. Avec le doublé d'Mbappé.
Ah ouais, exact. Mais t'avais l'impression que il était seul en guerre, en fait. Genre bon, après il y avait bien sûr d'autres joueurs, mais
c'est lui qui a sonné la révolte, on dirait. C'est clair.
Ouais. Mais quand tu voyais à son attitude, peut-être sa gueule un peu, il était vraiment. Il était en mode je peux pas tous me les faire tout seul, genre c'est du coup c'est ce que j'ai remarqué, mais très beau match. Et moi, dans ma mentalité, je suis pas en mode faut qu'on arrive premier absolument, faut qu'on gagne, sinon il pue la merde. Je trouve qu'ils ont fait un très beau parcours. Ça reste une équipe surpuissante. Ça veut dire que dans toutes les équipes mondiales, la France arrive souvent toujours peut-être dans les demi-finales, voire gagnante, tu vois.
Donc
c'est une équipe redoutable et je pense qu'ils vont revenir plus fort que jamais pour le prochain.
Est-ce que tu as des connexions avec certaines personnes dans le monde du sport? Déjà dans la vraie vie, peut-être sur les réseaux aussi, juste parce que quelqu'un déjà est venu te donner de la force sur certains de tes contenus et que vous avez créé un petit lien?
Contenu, pas que je sache encore. Mais juste avant l'interview, je parlais avec Shkitu, là, Bilal Shkitu.
Ok, boxeur.
Boxeur de Nanterre. J'ai déjà boxé dans son club.
Ah oui, boxeur du 92, forcément. Ouais, là, grosse connexion.
Exact. Et
t'as déjà boxé dans sa salle, ouais, du coup.
Ouais.
À Nanterre.
Je m'étais fait laver. Je suis allé là-bas, mais je devais avoir quoi? Moi, j'étais jeune, je devais avoir 16 ans.
Ok, oui.
Ils m'ont mis contre un daron, on dirait, il sortait de 15 ans de hype, s'il était trop musclé. Il m'a cassé le nez, il m'a carrément cassé le nez pendant un sparring.
Ah oui.
J'ai fait deux rounds.
Il a pas retenu ses coups, quoi. Normalement, contre un jeune, on retient un peu.
Ah, mais sur le ring, il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que t'es un coach, il te met contre quelqu'un. Il n'y a pas d'état d'âme, tu dois être un tueur. En fait, soit tu te fais tuer, soit tu tues. Donc voilà, moi j'étais la petite brebis sur le ring ce jour-là. mais voilà, il y a Bilec qui tout, Baki dont je te parlais, le combattant UFC. Il y a Greg MMA aussi. Okay. Ah j'ai déjà fait un contenu avec Greg MMA, mais c'était pas très axé sport, c'était dans un contexte, c'était dans un concept autour de Netflix, une série qui venait de sortir.
D'accord.
Et très prochainement, ouais, du coup, il y aura beaucoup d'acteurs sportifs de YouTube en France dans un événement que je prépare.
Ok.
Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, pas encore, mais ça arrive.
Ça va. Les connexions se font et vont se faire.
Les connexions se font et vont se faire, ouais.
Je comprends. Ok, parfait. Et j'avais une petite question sur ça. Depuis que tu t'es fait connaître, d'un très large public, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu arrives à rester à peu près pareil ou c'est compliqué? Il y a forcément des ajustements que tu dois faire?
Moi, je me suis mangé une claque parce que je suis quelqu'un de base de très, pas solitaire, mais très introverti. J'aime bien être dans mon coin. Comme je l'explique souvent en stream, même quand je suis en soirée avec des potes, on est dans un appart en train de jouer au loup-garou, jouer à la play, je sais pas, j'aime bien être en retrait, observer et tout, donc j'aime pas mettre sous le feu des projecteurs, j'aime pas mettre en lumière. Mais c'est un taf que j'ai choisi volontairement, donc j'assume aujourd'hui, donc c'est le jeu. Donc il y a des malus, il y a des bonus, et je suis avec, et là je pense que j'ai un bon équilibre avec tout ça pour
là, t'as réussi à digérer depuis le temps maintenant que t'es connu, t'as réussi à trouver le rythme de croisière qui te convient.
Ouais, j'ai mis un peu de temps, beaucoup de phases où moi j'hésite pas à faire des pauses, même si généralement tu sais que c'est pas bon pour les stats, des gens ils s'intéressent plus trop à toi après quand tu reviens, les vues, les trucs. Mais j'ai déjà fait des pauses de 3-4 mois où je faisais plus de contenu et je revenais. Et les gens, ils étaient toujours là pour moi finalement, ils étaient encore plus contents d'un retour que...
Ouais, finalement tu crées l'attente aussi quelque part.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, j'hésite pas à prendre des pauses. J'ai dû beaucoup faire ça, justement, parce que vu qu'on a explosé d'un coup pendant le confinement avec mon poteau Amine, c'était dur de digérer tout ça. Là où des youtubeurs ont peut-être construit ça sur peut-être 8 ans, 9 ans, nous, ça s'est passé sur un an. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu te retrouves avec 100 000 personnes qui te regardent en live et tu peux plus être trop toi-même. Ça, tu sais qu'il y a des très petits, des plus jeunes, des plus vieux. Ouais. Tu te dis, je fais quoi? Je peux pas mettre tout le monde d'accord. Au final, tu restes toi-même, et même en étant toi-même, y a toujours des gens pour dire, ah, il a dit ça à telle minute.
Ouais, je comprends.
Ça se fait pas pour nanani. T'es là, t'as envie de devenir fou en fait. Donc,
des fois, tu t'obliges parfois à éviter certains sujets ou peut-être faire attention à ce que tu dis précisément. Ou...
Après, moi, j'ai la chance d'être vraiment sans filtre. J'ai pas de sponsor. Ça veut dire, je dis ce que je veux. Franchement, j'ai aucun fil, tout ce que je pense dans ma tête, des fois ça sort même avant que ça tourne un peu là-dedans, ça sort par ma bouche, je dis des trucs des fois, et je suis prêt à parler tout, de tous les sujets, même peut-être les plus controversés. Moi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand il y a autant de gens qui te regardent, tu cherches la meilleure réaction des fois. Tu te dis, j'ai pas envie de frustrer, de brusquer des gens. Comment je réagis face à tel cas? Parce qu'en live, il peut tout se passer. Souvent, on est en appel avec des abonnés, ils nous appellent sur Discord. Ouais. S'il y en a un qui dit une dinguerie, tu te dis, je fais quoi? Est-ce que je l'engueule? Mais j'ai pas envie de l'engueuler, ça fait trop daron et j'aurais pas fait ça moi dans la vraie vie.
Ouais,
mais il faut que je montre l'exemple aux jeunes qui vont peut-être reproduire ce qu'il fait, tu vois. Du coup, tu cogites tout le temps à 1000 à l'heure et c'est un peu un exercice compliqué quand tu pètes aussi vite. C'est que tous ces paramètres viennent d'un coup, en fait. C'est ce qui m'est arrivé un peu dans ma vie.
Et du coup, toi, la chose qui t'a aidé le plus, par exemple, si on fait un parallèle avec un jeune sportif, peut-être en un an ou deux, on le connaissait pas ou peu, et d'un coup, il explose. Comment la chose qui, toi, t'a aidé à bien gérer, c'est quoi, avec le recul un peu?
Bah, pour le coup, vu que je suis pas dans le sport de base, enfin, comme un sportif, moi, le sport, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Donc, je peux pas conseiller ça à un sportif. Okay.
Les sportifs, donc, faites du sport.
Les sportifs, faites du sport. Faites un petit footing, des crassages, c'est bien. Mais... le sport et un autre thème qui est très important pour moi, c'est la spiritualité, la religion. Moi, c'est ce qui maintient la baraque un peu dans ma tête. Je ne pourrais jamais m'adonner à des conneries. Tu vois, je n'ai jamais bu de ma vie, jamais fumé. Et je sais que dans ces moments-là, quand ton mental il est au plus faible, tu as envie de trouver des petits raccourcis, des petits contournements pour justement oublier ta peine, ta douleur, un petit remontant, voilà, chercher le terme.
Ouais, je comprends.
Et du coup, j'ai toujours trouvé ça dans la religion, en faisant la prière auprès de Dieu, etc. Et c'est un truc que je fais. Je ne sais pas si je peux conseiller ça à un sportif, parce qu'il peut être raté, j'en sais rien.
Les sportifs qui sont dans la religion, en tout cas, de pratiquer leur religion. Et,
Moi, c'est un truc qui ne
sont pas de chercher une espèce de spiritualité pour se tranquilliser l'esprit, en fait, finalement, c'est ça.
Moi, c'est un truc qui me fait garder les pieds sur terre. Je sais que je suis un être humain comme un autre. On va mourir pareil, toi et moi. J'ai pas à me prendre pour une superstar. Du jour au lendemain, si tout s'arrête, bah merci pour l'aventure, c'était grave cool. Tout s'arrête, tu vois. C'est ce qui m'aide à maintenir ces principes-là dans ma tête et à me sentir vraiment bien quand ça va mal.
Et est-ce qu'on arrive à mesurer quand on est derrière son écran, par exemple avec son pote en train de se marrer, qu'il y a je sais pas, 500 000 personnes qui regardent, 100 000, 1 million, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte qu'il y a autant de monde qui suit le truc?
En vrai, oui et non, parce qu'on sait, parce que tu sais, on a le compteur pendant qu'on live du nombre de personnes qui regardent.
Mais tu vois, ça reste un chiffre sur l'écran.
Ça reste un chiffre.
Donc, alors que moi, je me dis, est-ce que dans ta tête, tu matérialises la foule que ça doit représenter de
là, on sait à ce moment-là combien il y a de personnes mathématiquement, mais en vrai, on réalise pas, parce qu'avoir 100 000 personnes devant nous en train de nous écouter, en train de péter dans un micro ou s'insulter nos mères, c'est quand même lunaire. Enfin, je veux dire, c'est fou. Il est où le concept en fait? Il n'y a rien en fait. Pourquoi il y a autant de... Je pense qu'ils ont l'impression d'être avec une bande de potes, bah, du coup avec nous dans un salon. En fait, ils ont l'impression d'être avec nous, ça leur fait passer le temps. Peut-être qu'ils mettent ça pendant qu'ils sont en train de se faire agrafer, j'en sais rien. Mais c'est fou de se dire que si on faisait ça en vrai et qu'il y avait ces personnes-là, il y aurait 100 000 personnes devant nous.
Ouais, on serait dans un des plus gros festivals du monde, quoi.
C'est complètement fou. J'arrive pas à réaliser ça, justement.
Et comment t'expliques de ce succès, justement ? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que autant de gens te suivent, vous suivent et passent du bon temps avec vous ?
Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Déjà, il y a le fait qu'on soit très naturel et qu'on ne mette pas de filtre entre nous. Du coup, je pense que les gens... moi, souvent, je réfléchis en tant que viewer de base. C'est-à-dire je ne me mets même pas comme en mode influenceur dans ma tête. Mmh. Et je sais qu'en tant que viewer, le contenu que je consomme, je déteste quand il est trop aseptisé, trop lissé. Okay. C'est un truc dont j'ai marre parce que j'ai beaucoup vu ça au collège, au lycée. Et ça y est, il faut de l'authenticité un peu. Donc, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Et du coup, on est très authentique avec Amine. On est nous-mêmes. Même en coupant la caméra, on va continuer de se faire les mêmes blagues.
Vous ne préparez pas énormément, finalement, j'imagine les grandes lignes, mais après, dans le détail, vous laissez venir les choses comme...
Ah oui,
comme
à part si c'est un événement où il y a un fil conducteur, tu sais, en mode, faut qu'il y ait telle séquence en début de live, on ne prépare jamais rien. Il faut que tout soit le plus naturel possible. Et même si lui, il organise un truc pour me faire un prank, il ne va jamais me le dire. Il faut vraiment que je me le mange en pleine gueule et que je découvre ça moi-même.
Un prank, c'est te piéger, en gros.
Un prank, c'est piéger. Comme une fois, on était en voiture avec Inox, il a fait semblant de faire une grosse accélération sur une ligne déserte dans le Sétu, dans un champ. Et je vois, il y a une voiture de la BAC juste derrière nous. Et bon, après, c'est un truc apparent. C'est vraiment une mise en scène, hein, mais il tape un délit de
fuite. À ne pas reproduire.
Il tape un délit de fuite, Inox, et j'étais avec Camille dans la voiture. Et mon cœur, il battait à 100 l'heure. Mais en fait, c'était un truc qu'il m'avait organisé pour me faire peur. Et à la fin, on se gare dans un parking et on voit qu'il y a la voiture de là-bas qui nous a retrouvés et qui vient devant nous. Je me suis décomposé. Je me suis dit, c'est foutu pour nous. Excès de vitesse, délit de fuite. Là, il nous retrouve.
Total.
C'est terminé. Mais en fait, c'était tout ça, c'était une mise en scène. Donc, okay. Tout ce genre de choses, on ne me le dit jamais à l'avance pour vraiment que ce soit naturel et que les gens n'aient pas l'impression d'être trompés ou dupés en live.
Super. Un petit mot sur ta relation avec Amine, du coup, avec le pseudo Amine Mathieu, je rappelle pour ceux qui ne suivent pas encore. Comment vous vous êtes connus ? Comment s'est fait l'alchimie un peu entre vous ?
On s'est connus sur Twitter. C'est au tout début sur Twitter, c'était vers peut-être 2014-2015. Okay. C'était ce qu'on appelait un twitto, ça veut dire que c'est un gars qui vraiment avait réussi à acquérir une communauté. C'était une petite communauté de 2000-3000 personnes, mais à l'époque c'était colossal déjà à ce moment-là. Pour resituer, même Rihanna au début de Twitter avait peut-être 10 000 abonnés, c'était fou.
C'était vraiment les débuts.
Et du coup, moi je commençais à en devenir un aussi parce que c'est un truc qui me faisait marrer de faire des tweets drôles, etc. Et c'est de là où j'ai connu une petite bande dont Amine dedans. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on allait dans la même direction en fait, qu'on voulait tous les deux tout exploser sur internet, qu'on avait la même vision du contenu qu'on voulait faire. On voulait un peu changer la méta qui était déjà en place un peu lisse. Bon, après, on n'a rien révolutionné du tout. Hein, mais nous, on voulait se lancer dans ce truc-là en ne reproduisant pas ce qui nous déplaisait de voir, en fait, finalement. C'est-à-dire, okay. On voulait ramener beaucoup d'authenticité et surtout, quelque chose qui manquait peut-être, c'était un peu de diversité au sein des influenceurs ou créateurs de contenu. Ouais. Parce que peut-être, en fonction de l'endroit où nous avons grandi souvent, on n'avait peut-être pas les moyens de s'acheter un bon setup pour faire des lives quand on était déjà au collège. Du coup, voilà, on voulait apporter un peu plus de représentation dans tout ça. Bon, même si on ne représente que nous-mêmes, finalement.
Ouais. Mais des gars qui vous ressemblent, vous n'aviez pas forcément des mecs qui vous ressemblaient, vous, en tout cas, à l'écran à l'époque.
Non, maintenant, de plus en plus. Ouais. Parce que c'est devenu de plus en plus accessible de pouvoir streamer. Mais à l'époque, on n'avait pas les thunes pour avoir rien qu'un PC gaming. On avait la Plague 3, tu l'achètes 200-300 balles comme tout le monde, c'est tout. Ben, un PC gaming, fallait avoir une petite situation déjà, ou des parents quoi, qui avaient les moyens pour offrir ça.
Il fallait pouvoir investir en fait.
Ouais,
déjà,
voilà, c'est ça. Okay. Et du coup,
vous êtes connus via Twitter, du coup, c'est ça qui vous a rapproché.
Ouais, on s'est connus via Twitter et de fil en aiguille, on se voyait de plus en plus en vrai. On se captait et tout. Et je me suis lancé sur Twitch en premier. Je suis un peu allé tâter le terrain, on va dire. Et quand je lui ai dit... Enfin, il savait déjà que c'était cool à faire, hein, mais je lui ai dit que c'était de la frappe, qu'il fallait qu'il me rejoigne, qu'on pourrait jouer à des jeux ensemble et tout. Ça a commencé bêtement comme ça. Et de fil en aiguille, il a créé son Eleven All-Star.
Bien sûr, d'ailleurs. On va en parler, évidemment, All-Star. Et du coup, juste une petite question pour compléter ça. Toi, qu'est-ce qui t'a plu chez Amine? Qu'est-ce qui te plaît humainement, s'il y a une qualité que tu que apprécies vraiment chez lui, qui a fait que c'est devenu un de tes très, très bons potes?
Pour moi, c'est une qualité que je kiffe, mais c'est aussi un gros défaut. C'est que il est... je sais pas quel est le terme exact, mais il fait pas de cinéma, ce type. Ça veut dire que des fois, il peut être archi froid quand
brut,
il...
quoi.
Ouais, il est brut. En fait, il va pas faire d'efforts ou de faux sourires quand il a pas envie d'en faire.
Okay.
Dès qu'il veut en faire un, il va te faire le plus grand sourire de la terre. Mais sinon, il est vraiment lui-même, et c'est quelque chose que je kiffe le plus chez quelqu'un. C'est quelqu'un d'authentique.
Okay.
Donc voilà, le terme, c'est l'authenticité.
L'authenticité. Okay,
et moi, c'est très important que j'avance avec des gens comme ça, parce que comme ça, il y a pas de on dit. Tu vois, c'est on va droit au but. Si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis. Si je fais quelque chose qui te déplaît, tu vas me le dire. Et c'est... je pense que c'est qu'avec ce genre de profil-là qu'on avance, et c'est quelque chose que je kiffe chez lui.
Lui, c'était un... enfin, c'est toujours un grand fan de foot, mais il s'était parce qu'il s'est fait connaître aussi pas mal pour ses tweets, notamment sur l'actu foot et tout.
Oui,
Amine,
de base,
il a toujours été très branché foot.
Ah oui, le foot, c'est une grosse partie de sa vie. Pour tout dire, je suis tellement pas foot, je sais même pas qui il supporte. Genre, j'en parle jamais avec lui. Tu vois.
Le PSG, hein.
Ah, le PSG, bah oui, le PSG.
Le PSG.
Ouais,
bien sûr.
Mais ouais, il est très foot.
Bon, du coup, ça nous amène à parler de l'Eleven All-Star, événement auquel tu as participé en fin d'année dernière. Du coup, on resitue au stade Jean Bouin, un match entre les principaux streamers français contre les principaux streamers espagnols, donc ils sont venus dans la capitale pour vous défier balle au pied, devant 20 000 personnes, avec des places qui se sont vendues en quelques jours. Un événement commenté par Alexandre Ruiz, avec Laurent Paganelli en bord terrain, les plus grands médias sportifs. Enfin, c'était un événement avec aussi beaucoup de moyens techniques, des caméras, comme si on était en Ligue des Champions et tout.
Absolument.
Donc toi, quel souvenir tu gardes de cet événement assez incroyable, puisqu'on avait en France jamais vu un événement de ce type-là?
Moi, souvent, j'ai tendance à oublier les choses, souvent. Mais ça m'a marqué de malade.
J'imagine.
Si j'arrive toujours à me projeter, tu vois, sur le bord de la pelouse, sur le bord du terrain, c'était juste fou à vivre. C'est un truc que je pense que je revivrai peut-être plus jamais dans ma vie. Donc, je me suis bien imprégné ce soir-là. Et c'est fou parce que même moi, qui ne suis pas très football de base, j'avais juste l'impression de partir en guerre avec mes potes et de défendre la France contre un autre pays. Et qu'il fallait ramener la victoire, la coupe à la maison.
C'était le cas, en vrai. Hein. Il y a eu la Marseillaise, c'était l'équipe de France.
C'était
ça
le cas.
Ça a fait le record de vues sur Twitch. Plus d'un million,
aussi,
100
aussi,
000
record
vues
français,
en direct.
C'est ça.
Personne branchée pour vous regarder jouer.
Donc finalement, pour certains, ils n'y voient pas tellement d'intérêt parce que c'est de la télé, mais sur Twitch, finalement. Mais avec du recul, ça a permis plus de moyens techniques qu'à la télé, où je crois qu'ils ne peuvent pas faire certains champs de caméra.
OK.
Du coup, je crois qu'il y avait 28 caméras ce soir-là au Eleven, et il y avait des champs de ouf. Enfin, je dis champs, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il y avait des façons de filmer de fou.
Okay, ouais. Des plans, ouais.
Des plans, pardon, excuse-moi, okay. Sur le terrain qui sont, je crois, interdits à télé, puisque c'est des plans qui passaient entre les joueurs, etc.
D'accord.
Donc, tous ces moyens techniques, plus des créateurs de contenu, des icônes, entre guillemets, appréciés par les jeunes qui n'ont pas forcément de talent. Moi, je suis claqué au foot, tu vois. Mais... franchement, les gens, ils se sont pris au jeu, et ça m'a moi-même choqué, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils regarderaient un match au niveau n'est même pas fou, finalement? S'ils aiment le foot, c'est pas un truc à regarder, quoi. Mais ce qui les faisait marrer, c'est vraiment de voir si la France allait encore une fois l'emporter contre l'Espagne, parce qu'il y a un certain passif contre l'Espagne sur Internet.
Tout à fait. Il y avait la Pixel War, du coup, c'est ça?
Il y avait la Pixel War, c'est ça, où il y avait une sorte de guerre virtuelle. Bon, c'est une guerre de pixels, pour ceux qui ne savaient pas, où il fallait... placer des pixels sur une sorte de tableau,
ouais.
Et qui peut se faire effacer si un autre Espagnol vient mettre un autre pixel dessus. Du coup, il y a ce passif-là qui était sympa à regarder. Voilà.
Ouais, du plus, coup, c'était dans la continuité, ce match-là.
C'est
ça faisait monter un peu la rivalité des streamers français et espagnols.
Ouais, exact. Je trouve que ça ajoute du contenu là où c'est un peu plat dans l'année. Donc,
On rappelle que la France avait gagné ce match, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. 2-0, un but de Sacha en première période et un de Bruce Granek en deuxième.
Ouais, mais
on s'en souvient. Et au niveau de l'ambiance, que moi j'étais en bord terrain ce jour-là, et l'ambiance était dingue. On se serait cru dans un stade de Ligue 1, même un stade de Ligue 1 plutôt bien chaud, quoi.
Mais pour tout dire, même tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais déjà assisté à quelques matchs au Parc des Princes.
Ouais.
Bah, là où je suis souvent dans les tribunes, là où il y a tout le grand public, on va dire, il y a parfois moins d'ambiance que ce que j'ai vu au Eleven.
Clairement. Là, c'est les quatre tribunes, tout le monde était debout, ça chantait, ça sautait.
En fait, je me suis dit, au bout d'un moment, ils vont peut-être se fatiguer, il y aura moins de... mais ils étaient à fond tout le temps.
Ouais.
On dirait qu'ils étaient tous sous cocaïne. Tu sais, je passais sur le bord du terrain et je disais, allez, tout le monde criait Yanou, Yanou, tu sais, alors que j'étais remplaçant, mais Yanou venait de faire une action de fou.
Ouais.
Je vois, ils commencent tous à crier Yanou, ça fait tout le tour du stade et ça revient vers moi. Et je me dis, mais c'est fou, tu,
ouais.
tu vois, on courait, on sautait, on faisait le su de CR7 et tout le monde criait su, mais genre, ils étaient tous là juste vraiment pour kiffer. Et quand tu les voyais dans leur regard, les étoiles dans les yeux qu'ils avaient, c'était... C'était trop bien.
C'est là que tu as pu mesurer aussi la popularité que vous avez, notamment toi, Amine aussi, qui est à l'initiative de tout l'événement. On a bien vu que là, c'était le boss du stade ce soir-là. Ah, et ouais. ça a dû quand même peut-être pas vous surprendre, mais vous faire chaud au cœur de voir tout ça en vrai, finalement, pas derrière un écran. Là.
De ouf. Parce que même pour des gros youtubeurs qui sont là depuis très longtemps, style Carlito,
ouais.
Je pense pas qu'ils aient pu vivre autant d'expériences que celle-ci dans leur vie sur Internet. Parce que même en ayant parlé avec eux après, c'est un truc inoubliable qu'ils ont vécu. Alors pourtant, ils sont là depuis un moment, tu vois, et ils seront peut-être encore là pour plusieurs années encore. Mais pour te dire que c'était vraiment un truc big, que fallait être là, fallait le voir pour y croire. Vraiment, c'était fou. Et c'était vraiment, comme tu dis, c'est Amine qui a l'initiative de tout ça. Il a vraiment tout setup de A à Z, tout organisé. Nous, on était juste là... vis-à-vis du public, on était juste un support en plus pour le faire briller encore plus
autour de lui, quoi.
Et c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être lui qui nous a donné de sa lumière, justement, parce que il y a des gars qui avaient peut-être pas tant d'abonnés que ça dans le groupe, etc., mais ils ont vraiment tous brillé ce soir-là. Et c'était vraiment chelou comme sentiment. Vraiment, t'as l'impression qu'ils nous distribuaient de la lumière et même le stade en avait, c'était fou.
Pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne voient pas encore de quoi on parle, sur les réseaux sociaux d'RMC Sport, le site d'RMC Sport, vous retrouverez tout ça, toutes les images. On avait filmé les grands moments. On avait rencontré Amine dans la semaine pour nous parler un peu des coulisses de tout cet événement. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder. Est-ce que tu sais s'il y a eu des personnalités du monde du foot qui ont suivi l'événement?
Ouais, il y a Griezmann, je crois.
Eh oui.
Il y a Griezmann et ça m'a surpris.
Il en a parlé sur ses réseaux.
Il en a parlé.
Après le match, pour vous féliciter, en gros.
Ouais, et franchement, ça m'a étonné parce que je me dis, ça a tapé des sphères auxquelles je ne m'y attendais pas, tu vois. Et le fait qu'il fasse un big up comme ça, il aurait pu garder ça pour lui, il n'était pas obligé. Le fait qu'il le fasse, ça a vraiment fait plaisir. Bah
ouais. Il préparait la Coupe du Monde en plus à ce moment-là, je me souviens.
Ouais, et je me dis, ça fait plaisir que des acteurs de cette scène-là s'intéressent aussi à d'autres scènes et qu'ils ne sont pas renfermés que dans leur monde à eux.
Ouais, bien sûr. On voit de plus en plus de connexions entre les sportifs et les streamers, j'ai l'impression en tout cas. Tu m'as dit toi, et de ce que je constate.
Mais c'est un truc qui se fait beaucoup pour l'instant, je crois, aux States et même en Angleterre avec les Sidemen.
Okay.
Je crois qu'ils ont fait une vidéo dernièrement où ils affrontent, je crois, des joueurs d'Arsenal dans un five,
juste pour
voir ce que ça donne niveau score. Et je pense que c'est pas plus mal si ça arrive en France. Vraiment, ça permettrait aux gens de plus découvrir les joueurs en profondeur. Je parle des joueurs pros. Et peut-être à eux de plus se faire connaître intimement. Voilà, donc c'est un truc cool si ça arrive de plus en plus en France.
Et juste aller te demander, est-ce que tu penses que cet événement, ça a ouvert la voie à une nouvelle ère finalement d'événements sportifs, mais faits par des gens qui ne sont pas de sportifs de base? Est-ce que vous avez inspiré peut-être d'autres mondes? Peut-être que vous, il y en aura d'autres, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère, ce que vous avez fait avec l'Eleven All-Star?
Je pense, pour moi, ça a commencé avec Squeezie qui a ouvert un peu la voie avec le GP Explorer.
Ouais, quelques mois plus tôt, effectivement.
Quelques mois plus tôt.
Au Mans, pour ceux qui ne savent pas, c'était un grand prix avec des streamers. Grand prix de F4.
Et même pour moi, qui suis totalement extérieur à ce sport-là, j'étais scotché en voyant ça et j'ai ressenti des choses. En fait, c'est dans ces moments-là que je me dis que le sport, c'est trop bien. C'est que je pense que c'est le meilleur moyen pour faire ressentir des choses aux gens, parce que tu te donnes à fond mentalement et physiquement. Et il y a une sorte d'alchimie avec tous les autres participants. Donc, Lucas a ouvert la voie sur ça. Amine a suivi. Et je pense qu'il y aura d'autres événements à venir de ce type-là. Après, ça demande énormément de moyens. Ouais. C'est souvent plusieurs millions investis dans les productions, dans le coût des équipes, la gestion, la réservation, la location d'un stade, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas en voir tout le temps. Mais s'il y en a un par an, déjà, c'est très bien, c'est très cool pour la commu. Et je pense qu'il y aura peut-être un rendez-vous annuel comme ça dans les années à venir par différents acteurs de la scène. Pour ceux qui peuvent se le permettre, ce serait génial.
Toi, à titre personnel, tu as des projets à venir dans les mois qui arrivent, peut-être dans les années, je ne sais pas. Peut-être lié au sport, tu peux nous dire si tu as des pistes par rapport à ça?
Ouais, j'ai un gros événement qui arrive. Je ne saurais pas encore te dire pour la date,
okay.
Mais lié justement à mes anciennes activités sportives. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros chapitre que je dois clôturer via cet événement.
Ok. Je suis sur du sport de combat, là, du coup, je crois.
Ouais.
J'ai l'impression.
j'en avais déjà un peu parlé en live, de toute façon.
Vu l'interview, de toute façon.
Ça, ouais, c'est du temps que j'allais pas faire un truc sur le volleyball. mais okay. Je suis dessus et ça avance.
D'accord. Ça avance. Quelque chose de sympa, vu comment tu m'en parles, j'ai l'impression que ça a l'air très cool.
Ça va être cool, ouais.
Ok, trop bien. On va suivre ça de près.
Cool.
Écoute, Billy, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir.
Merci, c'est un plaisir partagé. Merci à toi.
Voilà, c'était notre entretien avec Billy. Vous pouvez le suivre sur Twitch, Instagram, Twitter et tous ses réseaux sous le pseudo Rebeu d'Ether. Notre podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous pour ne rater aucun entretien. Laissez-nous des petites étoiles, laissez-nous des commentaires. Ça nous donnera de la force et ça nous permettra de nous améliorer pour vous proposer les contenus les plus cool possibles à l'avenir. Merci beaucoup à Arthur Robert à la production et un grand merci aussi au Reset Bar situé dans le 1er arrondissement de Paris pour nous avoir accueillis durant ce tournage. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Double Contact sur RMC.
RMC, Double Contact.